Et bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la famille, le genre, la maternité. Elle questionne et déconstruit la norme à partir de son vécu et des textes des grands penseurs qui la font réfléchir. L'écrivaine californienne Maggie Nelson est notre invitée de passage à Paris pour y défendre les Argonautes, son nouvel essai qui paraît aux éditions du Sous-Sol. À l'heure des états généraux de la bioéthique, un vent venu de l'autre côté de l'Atlantique pour envisager ces questions autrement. Maggie Nelson, invitée de la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, il chante, il, elle, dans Amour chien fou, un hymne à l'amour surtout entre ballade douce et pop acidulée, un album double face pour un artiste aux multiples facettes. Dans les bacs aujourd'hui, le nouvel album du crooner Arthur H, notre invité, à écouter tout de suite ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
On l'avait quitté avec L'Or Noir, où il mettait en musique les poèmes créoles des contemporains. Édouard Glissant, Aimé Césaire, Dany Laferrière, Daniel Maximin. Puis L'Or des Roses, où il habitait et habillait de notes avec son complice Nicolas Repac la poésie érotique de Guillaume Apollinaire, d'Éluard, de Breton, de James Joyce ou encore de Gerasim Lucas avec Prendre corps. Dans Amour chien fou, il revient avec ses mots à lui et rédige une déclaration d'amour universelle à celle qui ou à toutes celles que reine du cœur ou dame du lac, boxeuse amoureuse ou assassine de la nuit. Extrait.
Encore ce vieux truc. Remonte à la surface, une tristesse comme du surplace. N'aie pas peur, je garde la distance. Je cultive même l'indifférence. C'est une aversion mélancolique. Version mélancolique. Danse, danse, danse pour moi, Moon Love Goddess. 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 Ah, Moon Love Goddess, c'est ma Moon Love.
Moonlove Fantasy, extrait du disque 1, Amour, et Moonlove DS, extrait du disque 2, Chien fou.
Alors, le premier, c'était Inversion mélancolique.
Inversion mélancolique.
Voilà, ouais,
oh, ça marche pas. On peut recommencer alors.
Ah non,
on
non,
réinverse.
C'est pas grave.
Dites-moi, Arthur H, bonjour d'abord.
Bonjour.
Deux faces dans cet album. Une face claire, des ballades, un côté sombre, plus disco-punk, on l'a entendu. D'où deux facettes de l'amour, deux humeurs.
Oh bah disons que oui, bien sûr que l'amour a de multiples facettes, c'est une force en mouvement qui est autant constructive que destructive, et qui peut libérer, qui peut enfermer, donc c'est vrai que c'est un sujet de fiction sans fin bien sûr, parce que on peut être au paradis en enfer tout de suite, voilà, donc c'est vrai que j'évoque plein d'amours très différents, un amour assez extatique, joyeux quand même, sensuel, mais aussi l'amour qui fait mal, comme dirait Boris Vian.
Vous avez chafouiné un peu Arthur H, mon réalisateur, Père et le Gras, qui a inversé les plages visiblement, ou s'est perdu sur le sable fin. Dites-lui un petit mot d'amour pour le consoler quand même.
Je vous aime.
Voilà, merci beaucoup. Arthur H, quelle est votre définition de l'amour?
Eh bien, je n'en ai pas, parce que l'amour, c'est un peu comme la musique, l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut pas le définir, justement, ça nous échappe tout le temps, on sait pas trop ce que c'est. C'est une force d'attraction assez puissante, en tout cas. Mais elle est évidemment trop vaste pour qu'on puisse la définir, d'où l'intérêt de la poésie qui tourne autour, qui s'infiltre, qui révèle, qui échappe aux clichés, qui détourne les choses, qui tombe directement à l'intérieur. La poésie est, je trouve, plus efficace parce que sa définition est complètement ouverte.
En tout cas, c'est devenu votre langage, la poésie. D'abord, vous avez adopté les mots des autres. C'était le cas notamment dans L'Or Noir. C'était le cas aussi dans L'Or des Roses. Et là, vous adoptez votre propre langage. Bandé, tout est là. C'est pour ça que j'aime tant le lyrisme. Vous savez qui dit ça ou qui l'a écrit?
Non.
C'est Flaubert, dans Flaubert, sa correspondance, dans une lettre à Louis Collet. Le lyrisme, c'est bandé. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'ordre sexuel dans tout ce qu'on fait, dans le désir comme ça qui nous envahit, qui peut être effectivement un désir de poésie, mais qui se mélange à un désir sexuel. Ces paraboles ces métaphores sont toujours justes, quoi. Dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'univers, à la nature, à notre propre vie, il y a quelque chose évidemment de profondément sexuel. Et je trouve que cette énergie rend les choses vivantes, vibrantes. Et quand il y a une absence de cette énergie-là, il y a quelque chose d'ennuyeux, de pâle qui s'installe. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Flaubert.
Vous êtes d'accord avec ce potentiel érotique des mots?
C'est la vie, quoi.
C'est
quelque chose, évidemment. On va pas parler de la bandaison comme ça, mais
la bandaison crémaillère.
La bandaison crémaillère. Mais oui, ça se dresse. Alors évidemment, tout ce qui se dresse est beau, bien sûr.
Et c'est la question que j'avais envie de poser, Arthur H. Pour ou contre quoi la poésie se dresse encore aujourd'hui?
Oh bah vraiment contre beaucoup beaucoup de choses, parce que disons qu'on a l'impression, et j'espère l'illusion, que les forces qui enferment le monde, qui surveillent le monde, qui le catégorisent, sont de plus en plus puissantes. On a l'impression que le pouvoir a de plus en plus d'outils pour mettre sa main de fer, qui a même plus de gants de velours. Enfin, il a un gant de velours un petit peu, mais la main de fer elle est là sur les consciences, sur le temps des gens, la liberté du temps des gens qui se réduit quand même, on peut dire, c'est une vérité, quoi, de se réduire. Donc la poésie qui est le contraire, qui est toujours une espèce de temps qui n'est pas un temps social, qui est un temps libre, qui est un temps qui respire, quoi. Donc un temps long. Oui, je trouve qu'il est vraiment absolument nécessaire, au moins d'avoir ces des choses qui deviennent des bulles, même si elles sont peut-être plus petites qu'avant, au moins elles existent et il y a ces bulles potentielles où on respire, où on pense, où on échange, où on est dans une vibration qui est quand même beaucoup plus passionnante, quoi.
Si l'amour, Arthur H., est un sentiment, une émotion qui nous rend docile ou sauvage, c'est selon. Si l'amour, en tout cas, est un chien fou, à vous entendre, à vous écouter, cette mise en disque, c'est pourquoi vous cherchez quelque part à domestiquer ces émotions, ce sentiment par la musique, à dresser l'amour, à le dompter.
Couche panier, l'amour. Oui, on a peut-être tous ce fantasme-là, mais il est impossible. C'est la force de l'amour qui nous échappe totalement. Il peut fuir. S'il se sent enfermé, il va fuir très très rapidement. Il va disparaître. Et on aura beau vouloir le retenir, on ne pourra rien y faire. Donc voilà, une des forces, encore une fois, de l'amour, c'est qu'il est effectivement hors contrôle. Il n'est pas vraiment contrôlable, quoi. On peut, il est là ou il n'est pas là, mais on peut pas le dresser, non. Heureusement.
Et l'amour, ça cogne, ça fait du bien, mais ça cogne aussi. Extrait de La Boxeuse Amoureuse, ouais. Le premier disque s'ouvre avec ce titre, et cette fois, ce sera le bon. Thank you.
regardez-la danser. Quand elle s'approche du ring, la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout, la boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage, mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups, la boxe.
Un nom, un visage, cette boxeuse amoureuse, Arthur H, à vos yeux?
Oui, je l'ai un peu écrit pour ma mère, Nicole, en pensant à elle, mais parce que voilà, elle a vécu des histoires d'amour magnifiques, elle a chuté, en fait, certaines de ses amours, de ses histoires d'amour sont devenues des histoires dramatiques, ou douloureuses en tout cas. Avec ce côté vraiment très montagne russe, mais c'est quelqu'un qui a tenu dans l'adversité quand même, toujours de manière quand même assez solide, même si des fois je l'ai vu quand même chuter assez bas vraiment. Et elle s'est relevée et voilà, je trouve que maintenant ça lui donne une force, une beauté. Et puis ce que je trouve très beau, c'est qu'elle a c'est que c'est une femme heureuse et elle a retrouvé une forme d'innocence aussi, malgré les épreuves de la vie qu'on vit tous plus ou moins. Elle a reconnecté avec cette innocence que finalement on ne perd jamais. Peut-être on croit la perdre quand on souffre et tout ça, mais on ne la perd pas parce que c'est ce sentiment qu'on avait quand on est adolescent ou même enfant, de d'allant, de fraîcheur, comme ça, une espèce de grâce quand même, quelque chose de pur, d'innocent, c'est toujours là. Je trouve qu'elle l'a retrouvé. Et voilà, cette forme de résilience comme ça, qui est féminine, qui est un courage féminin, mais pas que, parce que ça pourrait être un courage masculin aussi. Voilà, c'est très beau, ça me touche beaucoup.
C'est compliqué de regarder ses parents et particulièrement sa mère aimer, être amoureuse. On a toujours envie, enfant en tout cas, et surtout en grandissant, de la protéger des coups que la vie peut donner, attribuer, alors que c'est aux parents, a priori, de nous protéger. Vous êtes père peut-être aussi à votre tour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une fille et vous allez devoir aussi lui transmettre des choses. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre mère, indirectement du coup, à essayer de préserver cette part d'innocence, cette part d'insouciance dans la vie, à vous conduire d'une certaine manière, en amour avec les femmes?
Je sais pas, enfin, parce que fatalement on fait toujours des erreurs quand même assez importantes, et puis on sait pas, on se respecte pas, on respecte pas l'autre, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me respecter et vraiment respecter l'autre. C'était pas que j'étais imbuvable, mais c'était par la force des choses, par la force de l'ignorance. On en arrive à voilà à pas savoir comment être. Et c'est vrai que le fait de chuter pas mal de fois apprend, bon, à nos dépens, c'est douloureux, mais au bout d'un moment, on n'a plus du tout envie de refaire les mêmes erreurs encore et encore. Et du coup, là, on retrouve cette innocence qui, du coup, devient solide, devient une innocence solide. Et elle est bien là, elle ne peut plus bouger.
On vous voit toujours comme un poète dandy qui traverse les années et la vie avec le pas léger. Mais ça veut dire que vous vous êtes aussi pris des coups, Arthur Ashe, des uppercuts, comme vous le dites, dans la chanson, en amour et pas seulement ailleurs. Il y a eu des échecs à un moment qui vous ont plombé.
Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai vécu des choses vraiment douloureuses. Ouais, très très douloureuses. Même à un moment, j'ai cru que j'allais mourir tellement. C'est des périodes comme ça. Quand je me suis séparé, quand mes filles sont allées habiter ailleurs, que j'ai eu l'impression de les perdre. C'était absolument terrible. Je me suis vraiment effondré, quoi, avec une souffrance terrible dans le thorax, quoi. Une impression que j'allais mourir. Je me suis vraiment littéralement écroulé. Oui, et puis ça, ouais, non, ça a duré longtemps en plus, mais oui, bah comme tout le monde, bien sûr, j'ai des moments où j'ai vraiment souffert, ouais, c'est vrai.
Cet album, Amour, Chien fou, c'est une déclaration d'amour qui explore aussi ce sentiment sous toutes ses facettes, Arthur Ashe. Première déclaration, elle est pour votre mère, Nicole, vous l'évoquiez. La seconde pour votre compagne, Léonore. La troisième à Lassa, l'amie chanteuse décédée en 2010. Et puis à la Brigade Légère, qui est dédicacée à votre famille nombreuse.
Allez mes sœurs, grandes guerrières, vers la lumière, si loin de vous, j'étais perdu. Allez mes sœurs, allez mon frère, la guerre est finie, c'est la victoire. Allez mon cœur, vers ta douceur. Allez mon frère, allez mes filles, folles danseuses, belles amoureuses, vitesse lumière vers vos étoiles. Allez mes filles, allez mon fils, beau Gulliver, vers ta lumière, explorateur.
Arthur Ashe, ils sont tous là, les filles, bien évidemment. La famille avec un grand H, elle est dingue cette famille quand même. Hein. Vous y avez trouvé votre place ?
Ouais, bah oui, bien sûr, avec le temps. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, on a vécu des choses très très fortes ensemble. On s'est beaucoup retrouvés, on a vécu vraiment des émotions assez denses. Et du coup, j'étais plein de cette émotion, alors il y a cette chanson qui est sortie comme ça.
Vous êtes le noyau aujourd'hui de cette famille ?
Non, je ne suis pas vraiment le noyau, mais j'ai trouvé ma place. En tout cas, c'est vrai que j'ai un problème de place assez important. Mais voilà, là je me sens bien dans ma place, ouais.
Il est bien à sa place, Arthur Ashe, dans le studio de la Grande Table sur France Culture, midi 22, déjà avec nous jusqu'à midi et demi.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jasbert.
Est-ce qu'on embrasse différemment à Tokyo qu'à Paris, Arthur Ashe ?
Ah, c'est une très bonne question. Et Oui, bien sûr, mais enfin en même temps, oui et non, je dirais. En tout cas, quand on embrasse la femme qu'on aime, c'est toujours un peu miraculeux. Alors, c'est toujours en dehors du temps et en dehors de l'espace. Donc finalement, qu'on soit à Tokyo ou à Paris, ça change rien. Mais bon, j'avoue que qu'on était à Tokyo, qu'on avait on a eu la chance d'être là pendant cette fameuse période des sakura, là, des cerisiers en fleurs, qui est une période un peu sacrée, festive pour les Japonais. C'est très très beau d'ailleurs de voir ces sublimes cerisiers en fleurs partout. Ça dure assez peu de temps. Et qu'on s'embrasse sous un cerisier en fleurs, c'est quand même pas mal.
Ça, parce qu'il y a un des titres de l'album qui s'appelle Tokyo Kiss.
Ouais, ouais.
J'ai bien écouté, j'ai bien cherché dedans. J'ai pas trouvé effectivement la réponse à la question que je viens de vous poser. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un album qui voyage et qui fait aussi voyager, qui vous confronte à la fois à l'autre et à vous-même dans d'autres situations. Vous êtes allé où? Vous avez fait escale où pour cet album?
Alors, par une succession de hasards assez miraculeuses, on a pu faire un tour du monde. C'était pas du tout prévu, mais du coup, alors voilà, on a fait Mexique, Japon, Bali, Paris, donc Paris, Mexico, Tokyo, Bali, Paris. C'était assez excitant. Et sur comme c'est un double album et que chaque face donc a son identité, son essence, donc il y a une face très lente, hypnotique avec que des balades atmosphériques, cosmiques et tout ça. Donc ça correspondait très fort à Bali. Et Léonore a enregistré voilà des énormément de toutes sortes de gongs possibles, imaginables. Et là-bas les gongs sont vraiment sublimes. Ils ont une science du son, de la vibration qui est exceptionnelle à Bali. Voilà, c'est le morceau qu'on est en train d'entendre. Elle a donné tous ses sons à Nicolas, qui a fait un repack, qui a fait un morceau avec. Après, j'ai écrit des paroles. Et le Mexique, c'est un morceau, c'est une chanson qui s'appelle Carnaval Chaotique. On a eu la chance de suivre une procession indienne dans une toute petite ville. Il y avait zéro touriste pendant des heures et des heures. Et évidemment, Léonore aussi, Mercier, a enregistré tous les sons. Et ça a donné un morceau qui s'appelle Carnaval Chaotique.
On écoute un extrait de Le Passage, Gang Song, réalisé en partie avec des sons captés dans les rues devant les temples à Bali.
Tu n'emportes qu'un rire, un cœur qui s'apaise.
Album Arthur H, Amour, Chien fou, une petite question comme ça, vous êtes en bonne santé?
Oui.
Oui, parce que j'ai vu cette annonce qui m'a un peu intriguée, mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, celle d'une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad à la Colline, prévue pour l'an prochain, et votre nom à l'affiche, ce sera vous le chanteur qui fait croire à sa mort?
Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est une idée qu'on a eue avec Wajdi, d'une descente aux enfers, d'aller le plus bas possible. Et après, comment on remonte, qu'est-ce qui se passe ensuite pour renaître une fois qu'on a connu l'enfer. Donc voilà, Wajdi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'admire beaucoup. J'admire sa liberté dans les formes, sa créativité, son sens de l'histoire complètement démentiel. Sa façon comme ça d'accumuler des histoires différentes, de trouver un fil à l'intérieur. Donc c'est un ami, on a des très très... C'est quelqu'un de très profond qui a une espèce de réflexion extrêmement attentionnée sur la vie perpétuelle. Donc chaque conversation avec lui est absolument passionnante parce que voilà, il suit un fil, il va au fond des choses, mais c'est pas du tout lourd non plus, ça reste léger. C'est quelqu'un d'élégant.
Et un metteur en scène qui fait une grande place au son dans ses pièces, dans ses spectacles, qui sait tendre l'oreille, qui fait confiance d'ailleurs peut-être plus en ses oreilles qu'en ses yeux, son regard, ça c'est ce qu'il a souvent évoqué. Ce sera, on l'imagine, à nouveau un spectacle hybride à vous deux, dans la veine aussi. Peut-être pas sur le drame ou le comique, mais de votre cabaret Magic Mirrors qui mêlait musique et spectacle. Vous êtes ou vous vivez plus comme un artiste de scène, Arthur H, plutôt qu'un artiste de studio, d'intérieur.
Bah, je me vis plus comme un artiste tout court en fait, qui cherche, qui j'explore plus la chanson, qui est un art simple et direct, mais. Je fais plus de scènes que de studios fatalement, parce qu'on fait un disque tous les 3 ans maintenant, alors que c'est des concerts, j'en fais tout le temps. Et les concerts, c'est vrai que la scène est devenue un espace très familier, toujours très étrange, parce que quand on monte sur une scène, c'est toujours excessivement étrange, mais quand même familier, amical, une espèce de zone comme ça, onirique, où plein de choses très subtiles et intéressantes peuvent surgir.
À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table, Arthur H, les identités à question avec l'essayiste Maggie Nelson, notre invitée pour son livre d'auto-théorie Les Argonautes, où elle explore la question du genre en quelques notes. Il, elle, c'est un des titres de ce nouvel album, Arthur H, extrait du disque 2, Chien fou. Ouais. C'est une folie d'inverser les genres aujourd'hui. Homme et femme au milieu, sois toi-même, être unique et précieux. Elle est beau, il est belle. On n'a pas l'habitude de le dire dans ce sens-là.
C'est dur à dire au départ.
Pourquoi ce titre ?
Parce que j'ai rencontré un jeune homme comme ça que j'ai trouvé très beau et très touchant, qui voulait changer son identité graduellement. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'avant il était un petit peu éteint quand même, je le connaissais depuis longtemps, et tout d'un coup il s'est révélé à lui-même et c'est devenu effectivement quelqu'un d'étincelant dans cette nouvelle identité qu'il construit, qu'il invente. Ça m'a touché.
Et vous êtes pour le choix de chacun ? À être ce qu'il a envie d'être.
Évidemment, bien sûr.
À choisir son identité.
Bah oui, bien sûr.
Bon, la vôtre, elle est musicale en ce moment, assurément, avec cet album Amour, Chien fou, dans les bacs aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter.
Merci.
Il y a toute une tournée qui va s'enclencher, c'est souvent le cas après un album. On met les dates sur le site de la Grande Table sur franceculture.fr, à noter quand même Paris. Ce sera le 27 déjà, on vous retrouvera, je crois, à la FNAC. En 2018 ou pas?
Ça, c'est la FNAC, c'est demain, donc un showcase.
C'est demain.
À la FNAC Saint-Lazare.
Ensuite, il y aura Conflans, ensuite, il y aura Hérouville, ensuite, il y aura Jouy-le-Moutier, ensuite, il y aura Massy.
La salle parisienne, elle est début avril au Trianon.
Merci beaucoup, Arthur H.